Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
On va réfléchir sur des choses importantes, elles sont toutes importantes, quoi qu'il en soit. Et le livre d'Ecclésiaste est une invitation à l'observation, à la réflexion sur des sujets qui sont éminemment d'actualité et qui ont toujours été d'actualité. Tant qu'il y aura des hommes sur la terre, il y aura en effet des choses qui seront nécessaires pour notre méditation et peut-être ce que je vais vous dire n'est pas une qualité, mais plutôt un défaut. Alors attention, hein. On va regarder ça ensemble. Ecclésiaste. Alors c'est un livre un petit peu du même genre que les Proverbes, très intéressant. Alors, on va prendre le verset 2, chapitre 1er. Ecclésiaste, chapitre 1er, verset 2. Alors, vous excuserez la longueur de la lecture, mais je peux pas faire autrement. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Point final. Un peu court, non? On pourrait peut-être s'arrêter là, mais on va essayer de nourrir un peu ce sujet. Quelqu'un a appelé le livre de l'Ecclésiaste la foire aux vanités. Alors on en reparlera dans quelques instants, pourquoi ce mot foire aux vanités, puisque il désigne en effet à la fois des comportements, des attitudes qui sont ancrées dans l'humanité. Mais j'aimerais justement donner un préambule d'abord, avant d'aborder le sujet. Et vous dire, et vous en êtes tout à fait convaincu, la foi dans l'Évangile, la foi en Jésus-Christ, donne un sens à la vie. On va commencer par là. Ça revêtira peut-être un petit peu le caractère d'une étude ce matin, mais ça sera très simple, hein, quoi qu'il en soit. Un sens et une destination à la vie. Je dis bien la foi en Jésus-Christ. Beaucoup, peut-être, par ignorance, pensent que le fait religieux peut être justement une approche vers Dieu et que ça peut améliorer la vie ou ça peut aider à la vie. Mais c'est vraiment dans la parole de Dieu que nous trouvons les réponses aux questions et les remèdes aux maux de l'humanité. Donc, on retient cela. Un sens à notre vie. Jésus, la foi en lui et dans sa parole. Vous avez remarqué avec moi, il est question des vanités. C'est une surenchère, en quelque sorte, dans l'expression, qui pourrait se résumer ainsi par ce proverbe latin, tout lasse, tout casse et tout passe. Si vous voulez faire la transmission, eh bien, vous pouvez penser comme ça. Je pense que ça va peut-être nous aider à expliquer, eh bien, cette petite expression vanité des vanités, tout lasse, tout casse, tout passe. Et c'est vrai, hein. La vie, ça use. D'ailleurs, on le voit sur le plan physique, hein, on en ressent les effets à différentes étapes de notre âge. Mais même dans n'importe quelle expérience, hein, que ce soit une expérience professionnelle, où des choses apparaissent, elles sont florissantes ou elles disparaissent, parce qu'elles ont atteint leur maximum. Et puis, c'est vrai que vous pouvez avoir le meilleur matériel possible, à un moment ou à un autre, il va être obsolète. Toutes sortes de choses dans la vie, eh bien, sont réglées sur cette vanité des vanités. Si nous donnons une définition du mot vanité, et également son adjectif vaniteux, hein, ce qui en ressort, eh bien, ça donne une connotation d'ambitieux. La vanité, c'est de l'ambition. Alors, il y a de nobles ambitions, mais il y a aussi, quelque part, des choses qui dérapent un peu. Quand il s'agit de la vanité de celui qui parle et qui parle beaucoup, on dit que c'est un hableur. C'est-à-dire que, il parle, non pas pour se faire entendre des autres, mais pour que, véritablement, lui, s'entende parler. C'est ce que l'on dit. Alors, dans bien des domaines, que ce soit la politique ou dans toutes sortes d'expressions de la parole, ça peut être ça. Il y a un caractère particulier à la vanité, c'est qu'il fanfaronne. C'est-à-dire qu'il prend les choses en dérision en pensant qu'il est au-dessus des autres. Et que quelque part, il sait des choses que les autres ne savent pas, et il est là, nécessairement, il est indispensable pour que, après avoir entendu ce qu'il a à leur dire, ils augmentent dans leur connaissance et dans leur savoir. Ils fanfaronnent, donc il y a un sens de moquerie qui nous est stigmatisé très fortement dans le livre des Proverbes, vous vous en souvenez. On pourrait peut-être dire que derrière l'ambition, derrière les paroles vaines, derrière la fanfaronnade, il y a de la présomption, c'est-à-dire que on anticipe sur des choses qui ne sont pas, des choses qui ne se réaliseront peut-être jamais, mais que nous prétendons, en quelque sorte, on est un petit peu prophète avant les autres, présomption. Les antonymes, on vient de parler des synonymes, mais les antonymes de vanité, c'est ce qui est profitable aux autres. Parce qu'il y a quelque chose qui est dit et qui est bon, et si nous nous référons à la parole de Dieu, et au message de Jésus-Christ, c'est profitable. C'est ce qui donne un sens, une espérance, qui donne des perspectives, qui donne le bonheur, qui donne la joie, qui apporte toutes ces choses profitables. Quelque chose qui est utile. Voilà. La vanité aurait pour contraire, finalement, l'utilité. Et puis, un bénéfice. C'est-à-dire que il y a là quelque chose qui apporte. On en reparlera tout à l'heure. Quand on regarde et qu'on tourne les pages de notre Bible, nous pouvons peut-être y trouver, nous pouvons en citer quelques-uns, je vais aller très très vite, nous trouvons quelques vanités notoires. Alors peut-être dans votre esprit, vous pensez à quelqu'un, dans la Bible. Vous dites, tiens, ben voilà, celui-ci, qu'est-ce qu'il était? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Etc. Donc des vaniteux notoires. Alors le premier, c'était Jacob. Alors lui, il avait tout. Il était pas mal, Jacob. Il avait tout cumulé, mais c'est pas pour ça qu'il ne croyait pas en Dieu. Pour ça qu'il y a des choses qui peuvent cohabiter et qui sont incompatibles un certain temps. À un moment donné, il faut passer par le torrent de Jacob. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, il faut plonger. C'est pas possible. Il peut y avoir la foi en Dieu sans véritablement une réelle transformation, une réelle conversion. Il y est passé. À tel point qu'il nous est dit qu'il avait tellement bien appris la leçon. Enfin, que Dieu lui a appris la leçon. Qu'à la fin de sa vie, dans les derniers jours, il adorait Dieu appuyé sur l'extrémité de son bâton. Il avait compris. Mais faut-il arriver à 129 ans, il avait? Vous vous rendez compte? Vous imaginez, vous, au bout de votre bâton, à 129 ans? Oui, mais il avait compris. Il y en a un qui est un fameux vaniteux. C'est Roboam, le roi. Roboam qui est successeur de Salomon. Bon, il avait un empire derrière lui, C'est pas n'importe quoi, on s'imagine un petit peu l'éducation qu'il a dû recevoir, pas tant de l'exemple de son père dans les derniers temps, parce que c'était pas forcément très, très, très encourageant, mais Roboam, c'est un vaniteux. Quand il est monté sur le trône, il a dit à son peuple, mon père vous a fait souffrir, mais moi je vous ferai souffrir encore 1000 fois plus que mon père. C'est pas de la vanité, ça? Vous savez ce qui lui est arrivé? Son royaume lui a échappé immédiatement. Et c'est là où il y a le schisme d'Israël. La vanité, ça ne porte pas de bons fruits. Et puis, on les connaît mieux, ceux-là. Jacques et Jean, qui un jour s'approchent de Jésus, il y a quelque chose qui les démange, quelque chose qui les tourmente. Dis donc, Jésus, tu sais, nous, quand tu viendras dans ton règne, on aimerait bien avoir un siège à ta droite, pas à ta gauche. Nous, on est plus de droite. Vous croyez pas que c'est de la vanité? Alors là, ils vont se faire remettre en place, puis les autres aussi, parce que tout le monde va se calmer à ce moment-là pour la prééminence de ce que nous pouvons ambitionner d'avoir dans le ciel. Je termine avec Hérode, Agrippa Ier. Vous connaissez bien celui-ci, non? Alors je vous rappelle, il y en a eu 4. C'est lui qui a coupé la tête à Jacques, qui a fait couper la tête à Jacques. Ouais. Et à un moment donné, il était tellement vaniteux, il avait la foule devant lui et tout ça. Une parole nom d'un homme et parole de Dieu. Il a été foudroyé sur l'instant. Ça doit être dans Actes chapitre 13, quelque chose comme ça. Vous relirez l'histoire. Mais ça fait partie finalement, eh bien, des vaniteux. Ils nous ont parlé dans la Bible pour nous montrer l'exemple. Pas à suivre, mais l'exemple à éviter, hein, qu'il en soit ainsi. Hein. Et vous savez que la vanité, c'est un peu l'apanage des puissants, de ceux qui ont le pouvoir. Parce que bon, ben voilà, ils sont dans une tour d'ivoire, ils regardent les autres du dessus. Hein, voilà, ils sont au-dessus, naturellement. Et j'ai trouvé un proverbe russe, moi j'aime bien les proverbes, qui dit ceci, ça fait sourire, hein, par rapport à cette histoire de vanité. Il dit « Certains se croient des géants pour être assis sur la bosse d'un chameau. Comprendra, qui voudra. » Surtout que le chameau, il marche pas toujours. Vous avez fait du chameau déjà ? Qui c'est qui a fait du chameau, là ? Qui c'est qui était ? Ah, voilà, en Roumanie, il y a du chameau, hein ? Non. Voilà, ben je vois qu'il va falloir qu'on s'équipe avec des chameaux, hein, avec le prix de l'essence. Bon, mais bon, voilà, c'est pour montrer que, voilà, ça, c'est un proverbe russe qui nous donne un petit peu la version de ce que ceux qui s'imaginent. Vous avez remarqué qu'on parle pas trop souvent sur la vanité, hein. Bon, j'en ai fait tout un message là aujourd'hui. Alors attendez-vous, hein, à entendre des choses qui vont être difficiles. Je le dis avec le sourire, n'ayez pas peur. L'illustration du sujet, eh bien, on l'a dit tout à l'heure, j'ai commencé par là, la foire aux vanités, quand on sait qu'une foire est l'expression d'un endroit de désordre, enfin disons, de joyeux désordre, hein, parce qu'il y a quand même une ordonnance, hein, naturellement, du pêle-mêle, et c'est bruyant. Hein, quand on va là sur les marchés et tout ça, on peut s'imaginer ce que ça peut être. Hein. Parfois même de la débauche, surtout en fin de marché. Je ne sais pas, je dis ça comme cela en passant. Hein. Et la vanité, les vanités sont rappelées dans le livre de l'Ecclésiaste 34 fois. Donc il y a quand même une raison, vous vous rendez compte, pour qu'un livre contienne le mot répété, et il est répété à chaque fois deux fois. Donc vous multipliez. Hein, pourrait se définir par quelque chose tant dans la pensée. Il y a des pensées qui sont vaniteuses. Il y a des paroles qui sont vaniteuses. Et il y a également des actions vaniteuses parce qu'elles sont inutiles. Elles ne peuvent contenter la fierté ou une certaine considération de la personne qui sort ceci ou cela ou qui fait ceci et cela, mais pour elle-même. Il y a des gens peut-être qui les applaudissent parce qu'ils n'ont pas vu le subterfuge. Mais derrière cela, eh bien, la Bible met un zoom en disant « attention ». Alors, peut-être vous allez me dire « oui, mais ça existe à l'extérieur ». Eh bien, écoutez, on va voir que c'est pas seulement à l'extérieur. Parce que ça fait partie, finalement, eh bien, de la nature des hommes, ce désir de vanité, ce désir de paraître, ce désir d'être. D'ailleurs, Jésus le dira dans le sermon sur la montagne, et particulièrement par rapport à la prière et au jeûne, il dira « mais ils aiment à être salués dans les rues, ils aiment à être applaudis, ils aiment à prier debout, ils aiment à ce que, véritablement, en se défaisant le visage quand ils jeûnent, eh bien qu'on dise « mais qu'est-ce qu'ils sont spirituels ?» Ça s'associe aussi avec l'hypocrisie, hein, naturellement. Donc, c'est quand même un sujet important. Et des actions d'inutiles, des actions qui ne servent à rien, sans but efficient selon la parole de Jésus, que servirait-il à un homme s'il gagnait le monde entier, mais qu'il perdait son âme? Alors là, nous avons véritablement la cause, et nous avons l'effet. Et nous avons l'aboutissement. On est dans un monde, si nous voulons bien y regarder, dans un monde qui est ainsi. Et il est peut-être regrettable que quelquefois il y en ait encore quelques traces, ou il y en ait quelques traces dans l'Église, mais le monde est comme cela. Je ne suis pas là à critiquer et à faire de de l'anti ce que vous voudrez, mais une chose qui est certaine, c'est que ça fait partie de la nature humaine, et ça fait partie du péché des hommes. Quelquefois, on regarde, quand on a discerné qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, on dit « ouais, bon, c'est un vaniteux, on le laisse parler, puis ça va pas plus loin que ça ». Mais on s'aperçoit que Jésus le marque bien « que servirait-il ?». Donc, il est question de quelle utilité, quel sens, quel but, quel objectif, on pourrait dire, servirait-il à un homme de gagner le monde? Il pourrait avoir tout, et il y a des hommes qui ont tout, hein. Faut bien quand même le dire, hein. Ce sont des royaumes, ce sont des empires, ce sont des puissants, ce sont des pouvoirs, ce sont des gens qui, quelque part, eh bien là, sont les marionnettistes, finalement, des hommes, hein, et ils les font danser, ils les font faire ce qu'ils ont envie, parce qu'ils sont puissants pour le faire. Même dans le domaine politique ou domaine commercial. Comment les gens se comportent-ils dans le conformisme de tout ce qu'il y a, de tout ce qui apparaît, de tout ce qui est présenté, de tout ce qui est offert, de tout ce qui est vendable, de tout ce qui est achetable? On le voit. Et derrière, est-ce que ce ne serait pas le mensonge quelque part? J'ai des paroles un petit peu difficiles, mais est-ce qu'il n'y aurait pas du mensonge? Faut savoir trier. Et moi, je crois que quand on est chrétien, il nous faut du discernement, de la perspicacité spirituelle pour discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais vous le savez, vous le faites déjà. Moi, si je devais répondre à toutes les sollicitations, mais vous aussi, vous le savez, moi, j'ai des gens qui me téléphonent, ils sont gentils, ils me téléphonent 2 ou 3 fois par jour, au moment de déjeuner, et ils me proposent de refaire la toiture de ma maison. Alors, bon, bah, ça va, j'ai pas de maison. Elle est pas à moi, en tous les cas. Voilà. Et puis, toutes sortes de choses. Myriam me dit souvent, arrête de faire des dépenses comme ça. C'est elle qui a la carte bleue. Alors. Bon, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Parce que là, c'est beaucoup plus qu'une valeur, un caractère de valeur humaine. Mais c'est spirituel et c'est moral. C'est moral et c'est avant tout la destination spirituelle. Alors, si on regarde dans la Bible, que pense Dieu de la vanité de l'existence humaine? Pourquoi vis-tu? Que fais-tu dans la vie? Quel est ton but? Quel est ton objectif? Quel est ce que tu recherches? Quelle est ta priorité? Quelle est la prééminence dans ton existence? La vanité de l'existence humaine, on le voit aujourd'hui, encore sans critiquer. Mais regardez le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui encore. Nous voyons, et ça se développe parce que les moyens de proposer, les moyens de séduire, les moyens de convoitise sont de plus en plus nombreux, hein. Puis ça va vite, hein, avec la technologie, l'informatique, etc., hein. Danger pour les jeunes, hein. Mais il n'y a pas que les jeunes, naturellement. En quoi consistent certaines actions faites par les hommes? Pourquoi les font-ils? Alors, il y a des choses qui sont anodines, et puis il y a des choses qui ont beaucoup plus un caractère de danger, voire même de destruction, hein. En matière religieuse, et là, je suis obligé de le dire quand même, en matière religieuse, il y a d'abord la vanité de l'idolâtrie. Jean dit dans son épître, « Petits enfants, ne soyez pas des idolâtres. » Et il le dit à des chrétiens, hein. Et des chrétiens convertis. Et des chrétiens nés de nouveau, des chrétiens baptisés du Saint-Esprit, des chrétiens qui connaissent la parole de Dieu. Et ça, c'est vraiment un problème. Il y a l'idolâtrie. Est-ce que vous ne croyez pas que dans le domaine religieux qui nous environne, ce n'est que de l'idolâtrie? Comment peut-on croire à des choses qui ne sont pas, qui sont de la vanité? D'ailleurs, quand vous lisez les prophètes comme Ésaïe, et puis il y en a d'autres, quand ils stigmatisent l'idolâtrie d'Israël avec ceci, avec cela, avec ces statues, avec toutes sortes de choses semblables, mais ils sont très sévères, hein, parce que ça a été véritablement la décadence du peuple de Dieu, l'effondrement de la véritable foi d'Israël en son Dieu. Il y a l'idolâtrie, il y a les fausses connaissances. Nous sommes dans un siècle où les gens sont instruits, ils peuvent s'instruire, ils peuvent se doter de toutes sortes de choses. Mais ce qui est quand même malheureux, c'est que, bon, je veux bien croire qu'il y a des gens qui ont vraiment la faim et la soif de connaître ce que Dieu pense en lisant sa parole et en lisant la Bible. Mais quand même, quand on voit un petit peu toutes ces philosophies, toutes ces théologies, toutes sortes de choses, est-ce que ça ne serait pas de la vanité? Et elles sont caractérisées dans la Bible comme étant une vanité. Et on les appelle naturellement, eh bien là, une fausse connaissance, source d'orgueil. La charité édifie, la connaissance enfle. Ça, c'est Paul qui le dit, hein. Et à ce titre, on voit apparaître, si vous permettez la comparaison et tout simplement le mettre en parallèle, cette fausse connaissance qui est une source d'orgueil, c'est l'empire du « moi-je ». « Moi-je », c'est ça. À partir du moment, on peut toujours le dire d'une manière normale, « moi-je », naturellement, on l'emploie, et peut-être des centaines de fois, mais quand les gens se présentent en disant « moi-je sais », « moi-je connais », « moi-je fais », il faudrait faire attention, et moi je pense à certains prédicateurs qui parlent plus d'eux que de parler de Jésus. Moi, je vais me faire couper la tête un de ces jours. Hein. Mais ils peuvent toujours me le couper, je suis en retraite. Non, mais c'est vrai, on a entendu, on l'a vu, on l'a constaté, ça. On chercherait peut-être le mot Jésus, puis bien sûr tout ce qui va avec. Mais c'est toujours là, et eh bien là, un déballage de ceci, de cela, etc. Qu'on rende témoignage de la grâce de Dieu, on est tout à fait d'accord. Mais quand on ne parle que de ça, quand on ne parle que de soi, quand on ne parle que « moi, je », alors à ce moment-là, ça devient vraiment compliqué. Et c'est véritablement pas faire honneur à l'auditoire qui est là pour entendre et qui est là pour se nourrir et puis se substanter. Parce que quand on vient dans une église, c'est pour véritablement repartir rassasié, réjoui. Et puis il y a les richesses injustes aussi. Il y a la soif de pouvoir et de puissance. Il y a les exploits, ce que nous voyons particulièrement dans le sport. Il y a les prouesses, il y a les performances qui gonflent l'ego, si l'on peut dire les choses de cette manière. Vanité des vanités et poursuite du vent. L'apôtre Paul nous dit, il nous parle d'une couronne de laurier, hein. Connaissez, hein. Et Jésus nous promet une couronne pour l'éternité dans son ciel de gloire. C'est autre chose. J'aimerais compléter avec une relecture de l'Ecclésiaste chapitre 8. J'ai trouvé ce texte. Il est intéressant. Alors vous pouvez le lire en classique là, mais écoutez bien la version que je vais vous lire, parce qu'elle est quand même intéressante sur la vanité humaine. Et c'est une version moderne, hein, c'est une version dynamique. C'est comme ça que j'appelle. Ecclésiaste 8. L'Ecclésiaste dit ceci. J'ai regardé attentivement ce qui se passe sous le soleil. Ben, vous n'allez peut-être pas le retrouver parce que je vous ai pas donné le verset. C'est un temps où les humains dominent leurs semblables pour leur faire du mal. Je relis bien, dominent leurs semblables pour leur faire du mal. J'ai vu des gens mauvais à qui l'on faisait de pompeuses funérailles à leur mort. Tiens. De ces gens que on marque une fois qu'ils sont décédés, leur nom au coin d'une rue, sur une plaque. Des gens mauvais à qui l'on faisait de pompeuses funérailles à leur mort. Écoutez bien la suite. Ces gens-là sont allés souvent au temple, ou à l'église, ou à ceci, ou à cela. Mais au temple, on avait oublié comment ils avaient agi. C'est terrible. Moi, quand j'ai lu cette version, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je me dis, mais c'est pas possible. Ça n'existe pas seulement dans la mafia sicilienne. Hein. Ce sont des gens très religieux, hommes de crime et de sang. Et ils sont tous à l'église. Hein. C'est terrible. Ces gens-là sont allés souvent au temple, mais le temple avait oublié comment ils avaient agi. Voici la vanité dans son expression religieuse. Et on pourrait peut-être citer le motif. C'est véritablement le veau d'or. Le veau d'or, c'est une affaire religieuse. Elle n'est pas spirituelle, mais elle est religieuse. Le prêtre principal, il s'appelle Aaron. C'est le grand prêtre d'Israël. Et c'est lui qui va perpétrer, finalement, ce geste de désobéissance aux yeux d'Israël en construisant un veau d'or. Voici Israël, ton Dieu qui marche devant toi. Le veau d'or. Et vous savez, le veau d'or, il est en or. C'est l'argent, c'est la richesse, c'est toutes sortes de choses, vanité. Et on en arrive à cette extrémité qui nous est donnée dans Romains, je lis le texte, mais simplement pour se remémorer. Il est dit ceci, « Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne l'ont point rendu grâce, Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images présentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Imaginez-vous un peu. Voilà comment les choses sont dites. Quand on parlait de vanité religieuse, d'idolâtrie, bien, on est au cœur de tout ça. Hein. On est au cœur de tout ça. Alors, pour revenir, finalement, eh bien là, à notre texte, deuxième proposition d'Ecclésias 8. Celui qui agit mal n'est pas puni tout de suite, et c'est pourquoi le cœur déborde de mauvaises actions. Et il nous est simplement rappelé que parce que l'homme n'est pas puni tout de suite, ça lui tombe pas sur la tête. Ça serait beaucoup plus radical, hein. Donc, les gens feraient peut-être un peu plus attention, hein. Eh bien, il s'encourage à faire encore plus de mal. C'est la parole qui le dit. Certains agissent bien et sont traités comme ceux qui agissent mal. D'autres agissent mal et ils sont traités comme ceux qui agissent bien. Quel monde dans lequel on est, hein. Vous trouvez pas quelquefois on se dit, mais c'est l'inversion des valeurs, hein. C'est une injustice où les mystères de l'impunité et des gens qui ont commis des délits extrêmement graves et qui vont sortir avec des non-lieux et blanchis du tribunal. Et il y en a d'autres pour moi. Je suis pas en train de porter un jugement, mais je constate. Et pour d'autres, eh bien, on va leur donner la peine maximum. C'est curieux, ça. Et c'est le monde dans lequel nous vivons. Alors, peut-être dans nos pays démocratiques, on est un peu plus vigilant par rapport à ça. Hein, un sens de justice, hein, selon notre devise nationale, patriotique. Mais une chose qui est certaine, dans certains, ça ne tient pas compte. Et il y a beaucoup plus de pays qu'on le pense qui fonctionnent de cette manière, dans l'inversion des valeurs, à cause du pouvoir et de la puissance. Vanité des vanités. Troisième proposition de l'Ecclésias 8. L'Ecclésias 10. J'ai fait tous les efforts pour comprendre. J'ai regardé et j'ai vu ceci. Nous ne pouvons pas découvrir comment Dieu agit, et les hommes peuvent se fatiguer pour chercher, mais ils ne trouvent pas, parce que leur recherche, parce que leur terrain d'investigation n'est pas fondé sur la bonne position. Les réponses, et on l'a dit, les réponses sont auprès de Dieu, en Jésus-Christ, dans sa parole. Il est sagesse, il sait tout, il connaît tout. Mais c'est pour ça que nous allons voir qu'il y a deux catégories d'hommes par rapport à la vanité. On va l'expliquer d'ici quelques instants. Ils ne trouvent pas. Même si quelqu'un dit « je sais », comme Jean Gabin, vous connaissez la chanson ? Je sais, et je sais que je ne sais pas. Je suis presque comme lui, hein. Dans la voix. Il ne peut comprendre le sens profond et caché de toute chose sous le soleil. Voilà la vanité et les illusions du savoir et des prétentions humaines. Qu'est-ce que l'on peut faire avec ça? Et le monde s'engouffre. Le monde se précipite. Le monde est en pleine course, finalement, pour croire de cette manière. Vous leur proposez l'évangile. Et la parole de Jésus, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Je veux leur donner des circonstances atténuantes. Vous savez, les gens ne veulent pas tant de Dieu qu'ils ne veulent plus entendre parler de religion. Et pour cause. Ouais, c'est vrai. C'est terrible et c'est ce que nous entendons souvent dans les témoignages qu'ils nous ont donnés de part et d'autre. Alors, vanité des vanités et poursuite du vent. Alors, quelles seraient donc les vraies valeurs? Parce qu'il faut donner maintenant le sens positif. Eh bien, on pourrait peut-être le résumer comme nous l'avons déjà évoqué brièvement. En résumé, c'est ce qui est d'abord utile à Dieu et à sa gloire. On l'entend souvent dans les prédications. La gloire de Dieu. C'est utile à soi-même, c'est-à-dire que ça nous permet de grandir et de progresser dans notre vie. Même notre vie morale, et aux autres en vue de leur bonheur et de leur paix. Trois destinations, Dieu d'abord, ensuite moi-même si vous voulez, et puis également les autres, ou les autres avant moi-même. Et ça, je pense que c'est une source de bonheur et de paix. Si la vie est faite d'une multitude invraisemblable de futilités, vous comprenez le sens du mot? Alors, quelle sorte de vie mérite d'être vécue? C'est un peu de la philo, hein, ce que l'on fait. Hein. On observe deux positions dans l'histoire des hommes, dans les hommes, Deux positions et deux regards, ça dépend comment je regarde les choses. Donc on peut donner les deux versions, position et regard. D'abord, le premier, il y a l'homme charnel qui examine, qui observe, qui raisonne et qui expérimente, scientifiquement, voilà, d'une manière ou d'une autre, qui discute sur l'ici-bas. Or, la révélation de Dieu, hors de la révélation de Dieu, en dehors de finalement de la révélation que Dieu nous donne, et cet homme qui cherche le commun de cet homme dans le monde aujourd'hui, et qui recherche, il a les moyens de rechercher naturellement, il finit désabusé par conclure que tout est perte de temps et futile. Alors il en arrive à cette, maxime, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Simpliste. Mais quand même, on le voit, et on voit le déferlement aujourd'hui de ce que les gens font n'importe quoi, pour pouvoir avoir un peu de bonheur dans cette vie qui est si courte, et s'exposant à tous les dangers et à toutes sortes de choses. Car demain nous mourrons. Nous sommes dans un monde qui recherche, un monde qui cherche, un monde qui va chercher même au-delà de notre galaxie. Donc c'est un monde intelligent. Mais il n'a pas cette intelligence de l'esprit. Parce qu'il refuse la révélation que Dieu, eh bien, lui propose. On pourrait dire que ce regard-là, cet homme-là, ses cogitations philosophiques et autres débouchent sur des impasses de désenchantement, voire pire, le suicide. Des auteurs comme Sartre et d'autres ont nommé finalement, eh bien là, la désespérance de la vie, tout simplement. Hein. Désespoir, et ils ont écrit des ouvrages sur cela. Hein. Quand il est dit, par exemple, au chapitre 18, je relis, « J'ai appliqué mon cœur, nous dit le psalmiste, de connaître la sagesse et à connaître la sottise, et la folie. J'ai compris que cela est aussi la poursuite du vent, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. » Ça ne veut pas dire qu'il faut rester bête. Et que quelque part, il faut être imprudent et tout ce que vous voudrez. C'est pas ça. Mais en dehors de Dieu, c'est pas possible. Ça, c'est ce regard négatif. Maintenant, nous allons voir l'autre regard. Quand vous lisez le livre de l'Ecclésiaste, il y a deux termes qui reviennent aussi, à plusieurs fois, c'est « ici-bas » et « là-haut ». Nous, nous sommes d'ici-bas. Mais par contre, notre destination en tant que chrétien, c'est que nous irons là-bas. « Ici-bas », c'est un labyrinthe qui ne mène nulle part. On l'a vu, désespérance, l'existentialisme qui ne mène nulle part, s'oppose à « là-haut ». Or, « là-haut », c'est le deuxième regard, et c'est notre regard, et c'est celui que nous avons besoin de développer, c'est celui que nous avons besoin de nourrir à l'intérieur de nous-mêmes, aspirer aux choses d'en haut. Faites tout pour votre sanctification, enfin, Seigneur, c'est la vie qu'il a fait, mais travaillez. C'est celui de l'homme à qui Dieu s'est révélé. Et n'oublions jamais que Dieu s'est révélé par grâce, et non pas parce que nous le méritions. Remettons un petit peu les choses... Alors cet homme-là voit une lumière nouvelle, la nouvelle naissance. Magnifique, extraordinaire. Et la vie prend un nouveau sens et profond, à valeur permanente. C'est que maintenant nous ne vivons pas pour manger et boire, pour mourir, mais nous vivons avec tout ce que Dieu nous donne. Réjouis-toi de ce que tu as à manger, de ce que tu peux boire, et réjouis-toi de tout ce qui peut te réjouir dans la vie. Mais n'oublie pas, et avant tout, travaille pour de l'autre côté. À quoi servirait-il un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? On en revient toujours à la même chose. Parce que cet homme a l'intuition de l'éternité. Et c'est toujours dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3 et au verset 11, il est dit ceci. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Dieu a mis la pensée de l'éternité. Merci Seigneur. Parce que ça nous a amené à nous tourner vers lui, à nous repentir, à croire à sa parole, à nous convertir, donc à lui donner notre vie et aspirer à notre vie. Et c'est lui qui nous a revêtus, finalement, de cette nouvelle naissance et de nous avoir baptisés du Saint-Esprit. Ça va? C'est pas trop compliqué? C'est votre expérience? Ouais. Je vais bientôt finir. Ça va? Quelles sont les véritables valeurs de la vie? On va reposer la question. Observation de la nature et de l'histoire. Les agitations perpétuelles et éternelles dans l'éternel recommencement. Quand il est dit ceci. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, il tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les feux vont à la mer, et la mer n'est jamais remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes sauches sont en travail, au-delà de ce que l'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui était sera, et puis etc., etc. Pourquoi la mer n'est jamais pleine? Pourquoi il y a les marées? Pourquoi les vents, oh maudit vent cette semaine, qui a cassé mon jardin et qui m'a donné vraiment des grandes inquiétudes pour ma vigne? J'ai failli la mettre dans ma chambre à coucher pour que ça soit vraiment tranquille, mais non. Eh, le vent, 70 km/h. Vous vous rendez compte? Ma femme me dit, peigne-toi, t'es peigné. Bah, je lui dis, je suis dans le vent. Vous savez que vous êtes terrible avec moi. Agitation perpétuelle, éternel recommencement. Vanité de poursuivre un hypothétique bonheur. Des fugacités, on peut appeler ça. Quand on regarde les désordres de la société, là ça va bien depuis quelques mois, là, tranquille. Hein. Pas de problème dans le monde et puis aussi dans notre pays. Hein. Voilà. Il y a des gens sur les ronds-points qui font la circulation, ça, impeccable. Oui. Désordre dans la société humaine, les injustices, les oppressions, les rivalités, tous les égoïsmes, cette grotesque illusion d'amélioration morale du monde en disant « on y arrivera à l'âge d'or ». Et les gens y croient. Heureusement qu'il y en a encore qui croient parce que ce serait déjà la catastrophe. Même si c'est pas la réalité finale, toujours est-il qu'il y a encore des lois, il y a encore certaines choses qui tiennent, heureusement. Mais on sait très bien ce que nous dit l'Écriture sainte sur la fin. Le constat est donné, le présent est comme hier, nous l'avons lu, et demain comme aujourd'hui, rien de nouveau sous le soleil. Et pourtant, les jours défilent, et pourtant la mer se vide, elle se remplit, deux fois par jour, et pourtant le soleil se lève ici, et il se couche là, et pourtant vous faites plusieurs repas et vous avez toujours faim, vous avez soif, vous buvez, et vous n'êtes jamais désaltéré. Ben bon, je vais arrêter là parce qu'on va finir. La foi aux vanités enivre les hommes de fausse sécurité. Vous connaissez ce monsieur qui avait construit des... Il avait fait une belle réussite sociale et professionnelle. Il avait une ferme, il avait engrangé là toutes sortes de choses. Il pouvait dire, moi je pars à la retraite et maintenant je me repose. Mais avant de partir à la retraite, lui il n'a pas planté une vigne. Il a fait construire des greniers pour engranger c'est tout ce qu'il avait, tout ça. Et puis après, il s'est dit à lui-même, il n'a pas dit aux autres, hein. Il parle qu'à lui-même, il ne parle pas à Dieu, il ne parle pas aux autres. Il se dit, ben maintenant, eh bien, tu vas profiter de la vie. Tu vas pouvoir manger, tu vas pouvoir boire, tu vas pouvoir faire ceci, cela, etc. Parce que tu as des biens en abondance. Ça, c'est une histoire très classique. Hein. Et il commence finalement, eh bien là, il fait des projets, il réussit même dans ses projets. Mais à un moment donné... Alors que il est là dans un sommeil, le sommeil du juste, à un moment donné, il fait un infarctus du myocarde. Ah oui, ben ça devait être ça, non? Ou un AVC. Et il s'est pas réveillé le matin. Il avait ses greniers, il avait sa fortune, il avait son or, il avait tous ses biens, il avait sa maison intacte, mais lui, il était parti. Et la morale qui nous est donnée par Jésus, que servirait-il à un homme, naturellement? Mais à quoi serviraient toutes ces choses si finalement, eh bien là, Dieu n'est pas prioritaire dans notre vie? Et c'est pas lui qui nous conduit et qui nous dirige. Naturellement, vous connaissez cette histoire. Conclusion, solution et réponse. Superficialité ou profondeur, c'est l'un ou l'autre. On est dans un monde qui vit que de la surface. En superficialité, je veux bien croire qu'il y a des gens qui ont un sens, c'est profond, mais dans la généralité, c'est ça, on fait marcher le monde. Vous savez, C'est l'histoire du conformisme, on veut être comme tout le monde. Et je crois que Dieu voudrait que nous apprenions et que les hommes apprennent à démystifier les recettes du bonheur, nourries d'une prétendue sagesse avec laquelle l'humanité se tranquillise. Ouais, il y a ceci, il y a cela, on se donne toutes sortes de choses. Les idéologies existentialistes, les idoles vivantes ou mortes. Les idoles, il y en a des idoles. Moi, j'ai appris dernièrement que Johnny Hallyday était mort, parce que j'en ai jamais entendu parler. Non, je suis en train de raconter des histoires. Non, mais c'est pour vous dire le comportement d'un homme, des hommes vis-à-vis d'un homme. Je n'ai rien contre lui, mais la place que l'on donne, cette folie, ce culte que l'on voue, cet argent que l'on met dans des choses qui... Et les gens ne vivent qu'avec ça. Leur cœur et leur âme est vide. Il n'y a rien du tout. Un homme pourrait-il sauver un homme ? Ça, ce sont les choses qui passent dans le temps, dans la vie. Et j'ai cité ce cas. Mais quelquefois, pour certains, ça peut être un homme politique. Vous savez que Staline, qui a détruit 20 millions de Russes pendant la guerre, on l'appelait le petit père des peuples. Ben, le petit père, il était quand même assez alerte. Hein, pour tuer, pour... c'est comme ça. Vous ne croyez pas qu'il y a une pensée diabolique derrière ? Et que les gens vont adhérer à ces doctrines, vont écouter pieusement, religieusement, avec dévotion. Et puis il y en a eu d'autres comme ça, hein, je passe. Hein. Et c'est aujourd'hui, c'est la même chose. Je ne fais pas état de l'actualité d'aujourd'hui. Parce que là, ça va pas passer. Vanité des vanités, poursuite du vent. Jésus nous donne une petite parabole sur le sable mouvant et le roc solide, pour construire durablement et solidement. Eh oui, c'est dans Matthieu, hein, on connaît l'histoire. Et il tirera de cette conclusion, on peut en tirer cette conclusion, cherchez d'abord, cherchez premièrement, cherchez en priorité le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Et ça, ce ne sera pas de la vanité. C'est parce que Dieu a la priorité sur tout cela. Ouais, le solide, et puis le liquide, le mouvant en tous les cas. Hein. Et Jésus pouvait le dire, il pouvait enseigner ce genre de message, parce que il a quand même affirmé que le chemin qu'il représentait, c'était un chemin solide, que la vie, c'était une véritable vie, et que la vérité, elle n'avait pas de contestation. C'est la parole, c'est la foi, c'est Jésus-Christ, un but, un sens, une destination. Une dernière remarque. Il y a la notion dans le livre de l'Ecclésiaste, la notion de la grâce et la notion du jugement. Le mot revient assez souvent. Et cette notion de grâce et de jugement, on ne va pas les séparer, oriente notre manière et le choix de vie, sachant que la vie est un don de Dieu. Je vous ai dit que c'est une grâce, mais c'est un don de Dieu. Réjouissez-vous de ce que c'est un don que Dieu nous a fait à chacun d'entre nous. Et ne le dilapidons pas. Ne le méprisons pas, ne le sous-estimons pas et ne le vendons pas pour des choses qui n'ont pas véritablement de valeur et d'intérêt. La futilité du monde débouche sur le désenchantement et le suicide. Combien y a-t-il de suicides dans nos sociétés ? Et plus les sociétés sont riches, plus elles sont nanties, plus elles ont de possibilités, plus les gens ne veulent pas vivre ou ne veulent plus vivre. Pour différentes raisons. Ce n'est pas à nous de juger. Mais nous sommes appelés à vivre dans la perspective de la lumière, de l'éternité, de la vraie sagesse, parce que c'est l'esprit qui vivifie. On pourra y mettre tout ce que vous voudrez, on pourrait y mettre de la matière, on pourrait y mettre de la recherche, on pourra y mettre toutes ces découvertes et de toute cette science. Je ne dis pas que les hommes sont super, super intelligents, hein, et ça c'est aussi un don de Dieu, mais s'il n'y a pas la vie de l'esprit, il n'y aura rien. Ouais, c'est l'esprit qui vivifie. Et dans Ecclésiaste, et je finis par cette dernière chose, du reste, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute chose en jugement au sujet de ce qui est caché, bien ou mal. La vanité, c'est une tromperie. où on se trompe soi-même et on peut tromper les autres. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. J'espère que je ne vous ai pas traumatisé. Non, que vous allez vous en remettre jusqu'à la prochaine fois que je reviendrai vous voir. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Et on va prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole. Parce que Seigneur, tu nous montres en effet, Père éternel, des reflets de la richesse de cette parole. Parce qu'elle est la vie. Parce que celui qui nous conduit vers cette parole, il est le chemin. Et dans ce chemin, eh bien, nous avons la vérité. Et nous te bénissons et nous te remercions. Tu ne nous conduis pas vers les hommes pour en faire des idoles. Mais tu nous dis qu'en effet, nul ne peut venir au Père que par moi, que par Jésus. Alors merci Seigneur, moi je veux avoir une pensée pour ce monde. Parce que je crois que dans ce monde où il y a tant de brassages, où il y a tant de confusion, où il y a tant d'illusions, où il y a tant de vanité, il y a des hommes qui recherchent Dieu. Moi j'en suis convaincu. Permets Père éternel que véritablement, eh bien ils entendent ton appel dans leur conscience. Ils puissent véritablement découvrir, eh bien véritablement ta voix Seigneur, pour la suivre, y obéir. Oui Seigneur, dans ta bonté, dans ta fidélité, c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est ce monde-là dont tu nous as sortis. Mais c'est ce monde-là, Père éternel, que tu veux nous mettre en garde. Parce que nous croyons que nous en sommes sortis, mais nous pouvons y retourner. Alors Seigneur, dans ta bonté, dans ta fidélité, oui, tu nous rappelles, vanité des vanités et poursuite du vent, alors nous voulons être de ceux qui véritablement prenons les décisions de ce qui véritablement glorifie ton nom, ta gloire, font du bien, fait du bien à nos frères et nos sœurs, aux hommes autour de nous, et puis nous profitent où nous sommes véritablement et bien au bénéfice d'une bénédiction, Seigneur, particulière. Merci Jésus. Amen.